Ubi France Radio, tout pour se développer à l'international.
Et nous sommes toujours chez Ubi France pour les RIN, les rencontres internationales du numérique. Ce que je vous propose, c'est de partir en avion et d'atterrir à Singapour avec Thomas Vial. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller export chargé du pôle nouvelles technologies, innovation et services, donc à Singapour pour Ubi France. Est-ce qu'on peut dire un premier mot sur le pays, sur quelques chiffres clés?
Oui, pour continuer, d'abord, en prenant l'avion, on atterrit bien à Singapour, parce que c'est un des aéroports qui marche le mieux. Il faut avoir en tête qu'il y a 42 millions de personnes, 42 millions de voyageurs l'année dernière. Donc c'est pour vous donner déjà une première dimension de ce hub, qui n'est pas seulement un hub logistique, mais aussi un hub de technologie.
Donc on reviendra sur ce hub.
Un premier chiffre pour vous donner un peu le dynamisme, c'est qu'on est sur des taux de croissance qui sont entre 4 et 5%. Alors bien sûr, il y a un peu de crise, donc ces taux de croissance étaient bien supérieurs. En 2009, on a eu un taux de croissance de 14%, donc tu vois, ça laisse de la marge. Mais partout autour, tu as des taux de croissance qui sont de 4 aussi, 5%, ce qui pousse Singapour en avant à l'échelle mondiale.
Combien d'habitants ?
5 millions d'habitants.
D'accord. Ça fait beaucoup d'argent pour peu d'habitants.
Exactement, c'est un PIB par habitant d'ailleurs qui est un des plus élevés à 40 000 euros, qui est un PIB qui est plus important que celui de la France. Un PIB par habitant, bien sûr.
Oui, bien sûr. Concernant les nouvelles technologies, les NTIC, c'est une croissance d'autant plus supérieure, je crois.
Exactement, il faut doubler, il faut multiplier par deux. T'as un taux de croissance l'année dernière qui a avoisiné les 12% dans tous les secteurs d'activité des nouvelles technologies, avec des croissances plus importantes sur les services télécommunications. Ce sont tout autour, c'est des pays en voie de développement, donc ils utilisent les nouvelles technologies beaucoup avec les nouveaux moyens de communication, donc la mobilité, où là, tu as des taux de croissance qui augmentent.
Phénoménal.
De 30%.
D'accord. C'est quoi les secteurs qui marchent aujourd'hui à Singapour ?
Alors, tous les secteurs télécoms, tous les secteurs des softwares, et puis ne pas oublier les contenus, puisque...
Là, on reste sur les nouvelles technologies.
Les nouvelles technologies,
il y a d'autres secteurs
bien
qui
sûr.
Marchent.
Alors,
là, voilà.
Pour aller vite, puisque je m'occupe aussi de la finance, c'est une place financière montante. Les grandes banques françaises, d'ailleurs, sont présentes. Mais pour revenir sur les TIC, il y a un problème de contenu. Aujourd'hui, les Singapouriens ont mis tout en place au niveau des infrastructures. Tout le modèle de Singapour, c'est d'abord un modèle de hub, donc d'infrastructure. L'année prochaine, ils seront connectés en très haut débit, mais il faut développer les usages. Donc aujourd'hui, ils sont à la recherche de killer applications, comme on dit, pour que les Singapouriens surfent,
achètent,
fassent du social media, etc. Hein, sachant que tout autour, par exemple au Vietnam, il suffit d'aller, pour ceux qui sont allés en vacances, dans la rue, ils sont tous sur des téléphones, de plus en plus de smartphones, évidemment. C'est un peu un pays où c'est fabriqué. Donc, et ils sont très, très connectés. Ils adorent les nouvelles technologies. Ouais.
Vous parliez de hub tout à l'heure. Est-ce qu'on peut expliquer quand même, parce que c'est un mot particulier ?
Alors, tout à fait. Il faut revenir dans les années 60. Le modèle singapourien, ça s'est développé autour du potentiel de croissance qu'il y avait dans cette partie du monde qui est un peu explorée. Quand vous parlez d'Asie du Sud-Est à un Français aujourd'hui, il ne sait pas trop le positionner sur la carte.
Vers le Sud-Est.
Voilà, exactement. Donc, y a une réalité aussi politique tout autour, c'est que ce sont des économies qui peuvent être marquées encore d'une certaine instabilité. Singapour, c'est un petit îlot stable avec une partie politique qui offre de la sécurité pour les investissements, les industriels. Donc finalement, tout s'est concentré à Singapour comme attache. Pour des gens d'ailleurs, il suffit d'y aller un peu dans la communauté d'affaires pour voir que tous ont des responsabilités à ASEAN et qu'ils utilisent Singapour comme une plateforme. Alors ce qui fait de Singapour aussi un hub technologique, c'est que cette espèce de terreau, 140 000 personnes qui s'occupent de IT, ce terreau est très fertile puisque c'est souvent des gens qui ont des responsabilités commerciales avec de forts potentiels sur des marchés très dynamiques. Donc tout ça fait un espèce de laboratoire intelligent avec des gens qui viennent d'universités prestigieuses.
D'accord.
Et c'est favorable aux nouvelles idées, aux nouvelles idées technologiques. Mais il leur manque des briques, donc on a une place.
Généralement, et c'est ce qu'on nous disait dans d'autres interviews qu'on a pu réaliser, c'est que des entreprises viennent souvent d'abord à Singapour pour ensuite se développer partout ailleurs, sur l'Asie notamment.
Exactement.
Et comment vous vous organisez au sein d'Ubifrance ? C'est-à-dire, vous travaillez ensemble pour accompagner d'un pays à l'autre ?
Tout à fait. En fait, on a un peu copié l'organisation interne d'une entreprise en essayant de travailler en communauté, finalement, en communauté...
Le hub.
Et alors, ça nécessite un peu des moyens de communication qu'on a aujourd'hui à Ubifrance, des visioconférences. On a des réunions régulières pour où on invite d'ailleurs des entreprises pour être en phase avec leur développement, puisque eux sont aussi dans du développement commercial, pour définir des priorités. Donc, cette espèce de bouclage, si tu veux, géographique, on l'a intégré dans notre système, ce qui permet, quand une entreprise se dit bah, « moi j'ai une opportunité »,
voilà,
on est en phase, on est un espèce de tapis roulant qui arrive à Singapour et puis on essaye de se projeter vers d'autres pays selon les opportunités.
Un petit mot sur, vous avez, je sais pas, un exemple de success story, la PME française qui est venue s'implanter à Singapour, qui a cartonné?
Voilà, alors j'ai envie de prendre un exemple assez intéressant. Je crois que c'est une entreprise Sikengo qui travaille dans la NFC pour tout ce qui est de la grande distribution, qui est une petite entreprise qui s'est implantée il n'y a pas très longtemps et qui a réussi déjà sur le plan commercial à avoir deux succès, deux clients, avec un effort d'investissement qui avoisine peut-être même pas les 10 000 euros,
hein,
qui a apporté une brique technologique et qui s'est finalement logé dans cette poussée technologique, dans cette dynamique technologique, avec bien sûr des bons relais sur place, dont on a un peu contribué pour les identifier, puis pour les faire vivre également sur le plus long terme, et qui aujourd'hui pense à pas mal d'avenir dans la zone, qui donc, se positionne.
Donc il était une fois l'entreprise Sikengo qui rencontre Ubifrance. Voilà, charmant,
exactement, qui trouve quelques bons partenaires, des clients, bien sûr, ils ont trouvé aussi leurs clients par eux-mêmes, hein.
D'accord.
C'est pas magique, c'est,
oui, vous faites
c'est
pas
une
tout
belle
quand
histoire,
même.
Il faut
un bon produit,
du suivi commercial, un bon produit, etc. Mais cela dit, c'est un modèle qui leur appartient, évidemment, hein, mais qu'on peut, qui est un message que les entreprises plus petites ou de la même taille peuvent reprendre.
Thomas Vial, Trois conseils pratico-pratiques qu'on peut donner à une entreprise qui souhaite s'exporter à Singapour.
Alors, première chose, c'est d'identifier le marché singapourien et ASEAN comme un marché d'avenir. On a 10 ans, grosso modo, il faut se positionner. Aujourd'hui, il faut défricher. C'est maintenant qu'il faut réfléchir à dire « j'y vais ». Alors, ça représente un investissement. Quand on est une entreprise technologique, je pense qu'il faut utiliser, deuxième conseil, tous les outils du service public, OCO, les outils régionaux, pour trouver ce financement, pour faire ce premier pas, pour se positionner à l'international. Ça représente un investissement, c'est un peu éloigné, il faut mettre en chaîne tout ce qui existe, et là-dessus, il y a un système public, je pense, qui est performant. Travail. Troisième chose, ce qui est importante, c'est de trouver des bons partenaires. Les partenaires asiatiques évoluent sur le long terme. Donc, il ne faut pas envoyer un signal en disant « je viens défricher et je m'en vais ». Il faut jouer sur carte sur table et leur montrer qu'est-ce qu'ils vont gagner en travaillant avec eux sur le long terme. C'est un peu évident comme ça, mais il ne faut pas l'oublier.
Eh bien voilà, on atterrit de cette interview avec vous, Thomas Vial. Un grand merci.
Merci à vous.
Je le rappelle, vous êtes conseiller export en charge du pôle NTIS, Nouvelles Technologies, Innovation et Services, là-bas, Sud-Est, Singapour.
À bientôt à Singapour.
Un grand merci. Au revoir.
Au revoir.